Radio Okapi.
Et c'est avec Gisèle Cage. Bonsoir.
Bonsoir Jean Gandou, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Okapi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Sans plus attendre, découvrons ensemble les titres de l'actualité de ce soir. Vital Kamerhe en Ouganda, la troisième conférence interparlementaire africaine. Il appelle à une solidarité héritée des pères de l'indépendance contre l'enrichissement par l'instabilité régionale. Cette conférence qui s'est tenue du 9 au 11 mai en TB avait pour objectif de réfléchir sur le renforcement de la souveraineté, la protection des valeurs africaines et la coopération entre le peuple africain. À Kalemi, province du Tanganyika, les activités du port public tournent au ralenti en raison des inondations. Les bureaux des différents services de l'État sont envahis par les eaux des pluies, entraînant la détérioration de nombreux documents officiels. Plusieurs bureaux ont dû être délocalisés pour continuer leurs opérations. Sécurité et climat en RDC, Judith Maroyi, responsable du club Zaïda Catalan pour la paix et la sécurité, dévoile les enjeux cruciaux en RDC en s'appuyant sur une étude de l'Institut international de recherche sur la paix basée à Stockholm. Ne manquez pas cet entretien exclusif avec Radio Okapi où elle partagera ses perspectives et solutions pour un avenir plus sûr et durable. C'est tout pour les titres. Direction Entebbe en Ouganda, lors de la troisième conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a déclaré hier que l'Afrique ne pourra jamais atteindre la souveraineté alimentaire tant que ces nations resteront indifférentes aux conflits et massacres qui ravagent la RDC, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a ainsi lancé un appel vibrant aux dirigeants africains. Nous devons privilégier la solidarité prônée par les pères de l'indépendance, a-t-il affirmé, plutôt que de chercher à s'enrichir en créant l'instabilité chez les voisins. Michel Kifindangoy nous fait le point.
Prenant la parole devant les présidents des assemblées nationales et les parlementaires des pays africains, le président Vital Kamerhe fustige les silences face à la guerre et aux tueries dont sont victimes la RDC, le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Les Rwanda et la République démocratique du Congo sont des pays voisins. Nous devons vivre en bonne entente. Les armes doivent se taire à l'Afrique. Parler de la souveraineté alimentaire au moment où la République démocratique du Congo compte depuis 30 ans de guerre, 10 millions de morts, c'est plus que les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale. On n'en parle pas comme si c'était des mouches qui mouraient. C'est injuste.
Le président de l'Assemblée nationale de la RDC plaide pour une vraie solidarité africaine prônée par les pères de l'indépendance.
Nous devons arriver à une indépendance alimentaire de l'Afrique pour que cette Afrique réalise les rêves de nos pères de l'indépendance. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, c'est pas mon affaire. L'Afrique se porte très bien, mais cette Afrique-là, ce n'est pas celle que Kwame Nkrumah a voulu.
Pour Vital Kamerhe, il est important de mettre fin aux conflits et guerres entre pays africains afin de se focaliser sur la promotion des intérêts politiques, économiques et sociaux communs.
En lien avec la guerre d'agression contre la RDC par le Rwanda, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux International a accusé le Rwanda et leurs alliés du M23 de violer la déclaration des principes en attaquant la localité de Lunyansingé, dont les territoires de Lubero, en plein processus de signature de l'accord de paix sous médiation américaine. Samuel Bemba a formulé ses accusations vendredi dernier devant la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples à Banjul, en Gambie. Il a réitéré à cette occasion la volonté du gouvernement congolais de restaurer la paix dans l'est du pays et de résoudre les différends entre Kinshasa et Kigali. Samuel Mbemba, dans cet extrait choisi par Blaise Ndongala Mayanda.
Les droits de l'homme sont particulièrement mis à mal à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela est dit au fait que le Rwanda n'arrête d'agresser notre pays. Et cela entraîne comme conséquence les violations massives et répétées des droits des populations civiles. Au moment où, sous les auspices des États-Unis d'Amérique, deux pays sont engagés à signer un accord de paix, le Rwanda a encore attaqué la localité de Lonya-Singe. C'est à se demander ce que le Rwanda et le président Paul Kagame veulent réellement. Quant à la République démocratique du Congo, à travers le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement Soumimoi, tout ce que nous voulons, c'est la paix.
L'actualité inclut également le 100 jours de l'occupation de Goma par la rébellion de l'AFC M23. La population continue de vivre dans un climat de peur, d'incertitude et de précarité extrême, selon de nombreux témoignages. La capitale du Nord Kivu fait face à une crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, économique, sociale et politique, sans perspective claire de retour à la normale. Compte rendu d'Alain Irung.
Depuis l'occupation de Goma, les habitants vivent sous la surveillance constante des rebelles. Malgré l'insécurité omniprésente, ils tentent de reprendre leurs activités quotidiennes, la peur au ventre. La prise de Goma a entraîné des déplacements massifs. Les conditions de vie se sont rapidement dégradées, marquées par des pénuries alimentaires et la dégradation des infrastructures scolaires et sanitaires. L'économie locale est paralysée, les banques et les institutions financières sont fermées, rendant l'accès à l'argent liquide extrêmement difficile. Les prix des biens de première nécessité ont fortement augmenté, alors que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Les rebelles du M23 impose également des taxes élevées sur les activités économiques, notamment les produits miniers et le commerce, ce qui aggrave la pauvreté et la vulnérabilité des habitants. Des rapports émanant d'organisations humanitaires et du gouvernement congolais documentent de nombreuses violations graves des droits humains, meurtres, viols, exécutions sommaires, enlèvements et recrutements forcés, notamment parmi les jeunes. Quelques signes de résilience émergent malgré tout. La navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu a repris et les écoles ont rouvert dans l'espoir de sauver l'année scolaire.
En Ituri, plusieurs services de l'État qui percevaient illégalement des taxes sur divers tronçons routiers ont été déguerpis des barrières sur les routes nationales 4 et 44. Une délégation conduite par l'avocat général militaire de l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri est en mission dans le territoire de Mambasa pour appliquer cette mesure du gouvernement provincial. Cette initiative vise à mettre fin aux tracasseries des usagers de la route. Les commerçants demandent aux autorités de faire respecter cette mesure, souvent bafouée par les agents de l'État sur le terrain. Isaac Remoyope.
Le service des crimes économiques, des chefferies, des transports et voies de communication, des migrations et de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père ne sont plus autorisés à percevoir des taxes sur la route. C'est entre autres barrières de Makiki, Belapo, Teturi, Mambasa Centre et Pulu, Bandegaido et Nyanya. Selon certains commerçants, un camion paye plus de $400 sur les tronçons Makiki-Mambasa, pourtant long de 120 km et plus de $1000 jusqu'à Kisangani. Ces taxes sont perçues même par certains services qui n'existent plus, comme celui des crimes économiques devenus antifraude et s'acquittance. Selon des opérateurs économiques, c'est pour la énième fois que ces services sont déguerpis de ces barrières. Mais ils reprennent leurs activités illégales aussitôt après le passage des autorités. Un membre de la Fédération des entreprises du Congo lance un appel au gouvernement de sanctionner les agents qui remettent en cause la décision de la hiérarchie pour tracasser les usagers de la route.
Cette fois-ci, nous lui demandons, ces services œuvreront encore à la barrière, qu'ils aient un document qui sera signé par lui-même. En tout cas, nous sommes un peu soulagé et nous attendons voir l'applicabilité de ce qui s'est passé au niveau de la barrière.
De nombreux usagers de la route et commerçants se plaignent de la multiplication des barrières sur les routes nationales, provinciales et même des dessertes agricoles qui étouffent les initiatives locales en vue de contribuer au développement de leurs entités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le Maniema, après plusieurs années, le gouvernement congolais a doté l'hôpital militaire de garnison des Kindu d'un lot important des médicaments pour la prise en charge des militaires et de leurs familles. C'est l'eau qui permet aux militaires de bénéficier de soins gratuits est un véritable soulagement, selon le responsable de l'hôpital et les bénéficiaires. Cependant, le commandant de l'hôpital militaire de garnison de Kindu plaide pour l'acquisition d'un bâtiment adéquat pour accueillir les malades. Cet hôpital reçoit quotidiennement entre 12 et 15 patients. Il précise que ces médicaments sont distribués gratuitement aux malades. Correspondance à Kindu de Florence Kizalunga.
C'est depuis 2003 que l'hôpital militaire est implanté à Kindu. À part les militaires, cet hôpital prend aussi en charge les civils. Cette dotation du gouvernement congolais réjouit son responsable, Dr. Patrick Kachiza.
Le chef de l'État a pensé aux militaires dans le cadre de la couverture santé universelle. Il nous a donné ce lot de médicaments. Vraiment, c'est un grand merci pour nous. Par cette même occasion, nous demandons au gouvernement si, dans la mesure du possible, il peut nous construire un bâtiment pour nous permettre de bien accueillir le malades qui viennent nous consulter.
Les patients témoignent de leur bonne prise en charge. Chaque Congombe Bertin est un militaire.
C'est vraiment excellent. Depuis tout le temps, il y a une prise en charge automatique. Tous les produits m'arrivent facilement. Aucune ordonnance m'a été prescrite pour aller chercher les produits, sauf peut-être ce qui manque.
Les civils aussi se disent également satisfaits. Trésor Kitoko Mukina est hospitalisé.
Je suis très bien encadré par le docteur et nous disons vraiment gloire à Dieu. Nous sommes bien vraiment.
Signalons que c'est l'eau, c'est pour l'hôpital militaire garnison de Kindu, centre de santé militaire de Luama et de Lokando. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit sur Radio Kapi. Comme indiqué dans les titres, les activités tournent au ralenti au port public de Kalemi dans la province du Tanganyika. Les camions transportant des marchandises peinent à atteindre le port. Sur place, les services de l'État ne fonctionnent pas normalement. Selon le commissaire lacustre de Kalemi, cette situation est due aux inondations de mardi dernier qui ont envahi le port. Ponle Munanga nous décrit la situation.
Sur la voie qui mène vers les ports, de nombreux camions s'embourbent. Il y a quelques jours, cette voie était inondée par les eaux de la rivière Kalemi qui ont débordé. Le commissaire lacustre de Kalemi précise que ces camions transportent des marchandises qui sont acheminées par des bateaux qui accostent au port de Kalemi en provenance d'Uvira ou d'autres pays frontaliers. Jean Kiato souligne que les eaux ont envahi le bureau des différents services de l'État et abîmé plusieurs documents de service. D'après lui, difficile pour le moment de travailler dans le bureau. Pour son cas, il a décidé de travailler à l'extérieur du fait que son bureau est toujours inondé, confie-t-il. Pour le bureau de la DGM par exemple, une motopompe s'active pour évacuer les eaux. D'autres services sont aussi délocalisés. Le commissaire lacustre reconnaît que c'est pour la première fois que des inondations provoquent des dégâts matériels importants au niveau des services qui œuvrent au port public de Kalemi. Pour rappel, mardi dernier, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kalemi provoquant des inondations dues notamment au débordement des eaux de la rivière Kalemi qui est située juste à côté du port. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et dans la province du Kasaï central, le gouvernement a relancé les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. La cérémonie s'est déroulée ce week-end au centre financier de Kinshasa en présence du ministre des Finances et du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Le gouvernement congolais a décidé de financer ces travaux dont le coût est estimé à plus de 180 millions de dollars américains pour une centrale qui produira 64 mégawatts. François Kadima nous en parle.
C'est après 9 ans d'arrêt que le gouvernement congolais relance ses travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Selon le ministre des Ressources hydrauliques, en 3 phases, 48 mois suffiront pour mettre en marche Katende. Dans la première phase, prévue pour 24 mois, 16 MW d'électricité seront produits et vont alimenter Kananga, Bujima et Chimbulu qui est situé dans le rayon où ce barrage est situé. Alors que le ministre des Finances a assuré que cette fois, c'est la bonne, au Kasaï central, la population qui indique avoir déjà assisté à plusieurs annonces pour la construction du barrage Katende et plusieurs visites, dont celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut simplement voir Katende être construit pour donner du courant électrique dans la région du Kasaï. Même vœu exprimé par plusieurs structures de la société civile locale qui parlent d'un barrage dont l'histoire remonte à 1956. En 2011, à la suite d'un financement mixte, les travaux de barrage Katende avaient été entamés et arrêtés en 2016 à la suite des événements de Kamuina-Nsapu. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, appelle le gouvernement congolais à augmenter le financement de l'enseignement public afin de soutenir la profession enseignante en période de crise, notamment dans le contexte de la situation à l'est du pays. Et cet appel a été lancé dans une déclaration faite à la presse hier samedi à Kinshasa par sa secrétaire générale à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril dernier. Malgré le contexte sécuritaire humanitaire difficile due à la guerre d'agression, le CIECO réaffirme son engagement à poursuivre sa lutte pour une éducation stable et sécurisée pour tous les enseignants de la RDC. Écoutons Cécile Tshiyombo dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
L'éducation est un droit fondamental et il est impératif que tous les enfants congolais aient accès à un enseignement de qualité sans avoir à souffrir des conséquences des conflits. Les enseignants et personnels de l'éducation affiliés au CIECO déplorent la mauvaise foi par manque de leadership au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté face à l'attitude qu'affichent certaines banques payeuses qui, par des pratiques malicieuses, soutirent de l'argent sur les salaires des enseignants. Le CIECO exige le paiement des arriérés de 3 à 4 mois, voire plus des enseignants du Nord Kivu et Sud Kivu, Rutshuru, Fizi, Kalehe, Walungu, Walikali, ainsi que le Maniema. Le CIECO salue l'initiative que prône le chef de l'État de mettre en place une politique salariale qui vise à assurer l'équité, la transparence, la motivation du personnel ainsi qu'une répartition juste des ressources disponibles.
Actualité internationale.
Nucléaire iranien, la quatrième session de discussion indirecte et directe entre l'Iran et les États-Unis s'est achevée à Oman ce dimanche. Si la République islamique évoque des négociations difficiles mais utiles avec les États-Unis, les Américains, eux, se disent encouragés par le résultat du quatrième cycle des discussions avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, a affirmé dimanche un haut responsable américain. Les discussions à Mascate menée par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Erici, qui ont été de nouveau directs et indirects, ont duré plus de 3 heures, a précisé ce responsable. Nous sommes encouragés par les résultats des discussions aujourd'hui et attendons avec impatience notre prochaine rencontre qui se tiendra dans un avenir proche, a-t-il ajouté.
L'invité.
Notre invitée, Judith Maroui, responsable du club Zaïda Catalan pour la paix et la sécurité, nous éclaire sur la corrélation cruciale entre le changement climatique, la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. En effet, une étude de l'Institut international de recherche sur la paix basée à Stockholm révèle que des impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement dans cette région exacerbent les vulnérabilités, l'insécurité ainsi que les problèmes sociaux, économiques et politiques. Judith Maroui nous offre une analyse approfondie de la situation réelle dans les zones de l'est du pays dans cet entretien avec Ronelly Ntimbonera.
Judith Maroui, bonjour.
Bonjour.
Vous avez contribué à une recherche sur les climats, la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tant que femme, quel état des lieux vous faites de la situation dans cette partie de la RDC?
Merci beaucoup. D'entrée des jeux, je voulais dire que cette recherche est très importante, en ce sens qu'elle met en lumière cette intersection entre le climat et les effets du changement climatique et la paix et la sécurité humaine. On a constaté que les effets, même si le climat n'est pas à l'origine directement du conflit, il peut quand même l'exacerber ou le favoriser. Par exemple, dans des zones de l'est de la RDC où ce sont déjà des zones instables, des zones en guerre, quand il y a des effets du changement climatique où les personnes, il y a glissement de terrain et les personnes sont déplacées, ils sont amenés dans un endroit là où ils sont déjà une zone instable, ils n'ont plus leurs moyens de subsistance, ils n'ont plus leur champ pour cultiver, ils deviennent oisifs. Les enfants peuvent être source d'insécurité ou de banditisme dans les milieux d'accueil. Cela crée de conflits avec les familles qui les ont accueillis et par la suite, ça peut exacerber ce qui existe déjà. On a donné l'exemple, par exemple, à Calais où il y a 2 ans, une catastrophe est arrivée. On a déplacé ces gens de Bouchouchou dans une concession d'une personne et 2 ans plus tard, on ne leur a pas donné où aller. D'abord, les concessionnaires commençaient à réclamer sa place et là où ils étaient, les enfants des déplacés dus aux catastrophes de Bouchouchou, n'allant plus à l'école, leurs parents n'ayant plus des champs pour cultiver, ces enfants sont allés voler dans les maisons. Un enfant a volé, c'est pas une poule, des chèvres, et ça a été source de conflits. Des gens ont failli se tuer à la machette. Et cette recherche a démontré comment les questions de changement climatique sont intimement liées à la paix et la sécurité, d'où l'intervention des uns des autres, donc qui travaillent dans les domaines de peace building, de toujours insérer ou parler de la question du climat, en ce sens que c'est intimement lié et ça peut soit aggraver la situation ou le favoriser.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut également imputer la problématique du changement climatique sur l'accroissement des décades de violence basées sur le genre et d'autres problèmes spécifiques à la femme?
Bien évidemment, on a aussi démontré comment les femmes, elles sont tant vulnérables aux conflits qu'au changement climatique. Les femmes, par exemple, le changement climatique a affecté leur agriculture. Les champs ne produisent plus. Elles sont obligées de faire beaucoup de kilomètres pour chercher de l'eau parce qu'il y a peut-être sécheresse. Et quand elles vont chercher de l'eau loin de leur maison, elles se font violer. Elles peuvent se faire tuer dans leur champ. Mêmement, on sent combien le changement climatique, en lien avec le conflit, exacerbe les violences basées sur le genre et dont sont principalement victimes les femmes. D'où leur implication, ce qui fait notre intervention, travailler pour que la femme participe plus à la justice climatique afin qu'il y ait cette paix environnementale. On sait que ce n'est pas facile, mais elles sont quand même résilientes, ces femmes. Elles essayent d'outrepasser toutes ces constructions sociétales qui les interdisent de prendre part active à la justice climatique, à la réforestation ou encore au recyclage des déchets, tant de déchets des champs ou des déchets plastiques. Et il faut plus de sensibilisation. Les femmes, elles comprennent, mais peut-être pas en des termes aussi sophistiqués, mais elles savent comprendre combien elles sont plus vulnérables, d'où leur implication s'il faut prendre des décisions en matière de climat ou de la paix et de sécurité.
Exactement, pour vous, en tant que militante, quelles seraient les actions prioritaires pour atténuer les effets du changement climatique sur des questions de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC?
Principal, c'est de soutenir les initiatives déjà existantes de subsistance, de résilience climatique. Les femmes à Kabare et à Calais, à Bukavu, c'est pas partout au Congo, à Goma, au nord et au sud Kivu, elles ont déjà des initiatives qu'elles mettent en place pour s'adapter aux effets du changement climatique. Par exemple, elles fabriquent des briquettes écologiques à base des déchets des champs. Cela constitue une alternative au bois de chauffe, ce qui ne vont plus aller chercher le bois et vous pourrez se faire violer. Elles ont désormais les déchets de leurs champs qui vont plus tard transformés en briquettes écologiques à base des matières qui ne demandent même pas d'argent. Ce sont des matières premières de leur village. Soutenir ces gens d'initiatives, ça serait très important. Les femmes, elles les font à la main. Et si on permettait qu'elles aient des machines pour le faire afin d'en produire à quantité industrielle pour que ça soit une vraie alternative, qu'elles en produisent, qu'elles soient des grands fournisseurs de ces briquettes parce qu'il y a de la matière et c'est facilement trouvable dans les milieux, ça peut être important.
Judith Maro, merci.
Notre invité Judith Maroï, responsable du club Zaïda Catalan pour la paix et la sécurité, a eu un entretien avec Ronéline Timbonera. Ainsi se termine notre édition d'aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Mimi Kindo avec Gisèle Kaj à la présentation sous la supervision d'Alain Irung Mouchinge. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de consulter notre site www.radiocapi.net pour rester informé en temps réel. Nous vous remercions de votre présence et de votre intérêt. Passé une excellente soirée chez vous.